Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite. Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Commerce Élite présenté par l'agence Pure Commerce. Mon nom est Antoine Gagné et mon objectif est de vous aider à bâtir un commerce élite. Et aujourd'hui sur le podcast, on parle des nouveautés Google Ads et on vous fait part de cette question très souvent posée par nos clients concernant le commerce électronique, l'acquisition et la rétention de clients en 2023. Bonne écoute! Chronique Google Ads. Comme à son habitude, Google supprime des fonctionnalités bien aimées de beaucoup. La dernière en date, la suppression des audiences similaires. À partir de mai 2023, les audiences ne seront plus générées, mais resteront actives dans les campagnes. Ce n'est qu'en août 2023 que les audiences similaires seront totalement supprimées et inactives de tout le réseau Google Ads. Cette décision intervient dans le cadre d'une série de mises à jour suite aux annonces de la plateforme faites en novembre 2022. Souvenez-vous, c'était l'annonce concernant l'arrêt des cookies de tierces parties. Comme à la manière des lookalikes sur Facebook, nous avions la possibilité de donner à Google Ads des listes d'emails d'anciens acheteurs pour générer des listes de prospection partageant les mêmes caractéristiques et comportements d'achat. Sous réserve que la taille de l'audience source était assez importante, les audiences similaires étaient donc bien pratiques pour affiner tout type de campagne d'acquisition. Que faire maintenant à la place? Pour commencer, vérifiez que vos paramètres sont à jour et mettez en place les bonnes pratiques utiles. Numéro 1, vos campagnes roulent sous une enchère automatique. À tous les amoureux du manuel, il est grand temps de faire votre deuil. Google ne s'aligne pas pour encourager cette pratique d'enchère. Et pourquoi donc? Car les stratégies d'enchère automatique utilisent l'apprentissage de Google et sont susceptibles d'enchérir sur des signaux de valeur plus rapidement et efficacement que n'importe quel marketeur humain. Numéro 2, utilisez le Customer Match. Et pourquoi? Car cela va permettre à Google de faire la différence entre clients acquis et prospects afin d'enchérir en conséquence selon si nous voulons avoir plus de nouveaux clients ou maximiser sur une base existante. Mais surtout, ces listes seront automatiquement incluses en tant que signal dans les modèles d'enchères automatiques, ce qui appuie aussi le point précédent. Numéro 3. Construire vos propres audiences de signaux slash reciblage et les ajouter en observation via GA4. Oubliez Universal Analytics. Et pourquoi? Car ça vous fera de la data et donc des apprentissages, mais surtout parce que GA4 est bien plus compatible avec les politiques de protection des données personnel. Et numéro 4, avoir les signaux Google Ads activés sur GA4. Et pourquoi donc? Car cela permet de collecter des données cross-device associées à un compte Gmail ou YouTube. En bout de ligne, cela crée des annonces personnalisées. Ensuite, pour remplacer l'utilisation des audiences similaires, Google recommande plusieurs actions. Pour le Display, Discovery et Video Action, il conviendrait de cocher le ciblage personnalisé dans les paramètres. Pour les campagnes avec les objectifs de notoriété, il serait de mise d'utiliser l'Audience Expansion. Enfin, depuis fin 2022, Google a mis en place, pour les campagnes Search et Performance Max, la possibilité d'indiquer à Google Ads si vous voulez particulièrement travailler l'acquisition de nouveaux clients. C'est donc aussi une voie à explorer. Très souvent chez Pure Commerce, nos clients vont nous poser plusieurs questions concernant leur boutique en ligne, leur acquisition de nouveaux clients ou encore leur rétention de clients existants. On a donc sorti 7 questions qui reviennent souvent avec des réponses pour vous aujourd'hui. Bonne écoute! Aujourd'hui sur le podcast Commerce Élite, on a décidé de répondre à des questions que très souvent des prospects, des clients ou également des gens qui nous suivent dans nos différents contenus vont nous poser concernant le commerce électronique. On a été capable de sortir 7 questions et j'espère que ces différentes réponses qu'on va vous donner aujourd'hui vont pouvoir vous aider dans vos initiatives futures concernant votre boutique en ligne ou encore concernant les clients que vous allez desservir avec vos différentes prestations de services. Donc, on commence avec la première question. On se fait souvent poser dans notre groupe, spécifiquement chez Pure Commerce, quels sont les flows de base à mettre en place avec notre boutique en ligne. Donc, on va vous les donner à l'instant et on en a déjà parlé quelques fois sur le podcast dans le passé avec soit nos collègues Tony Tran ou autres qui sont venus sur le podcast. Mais essentiellement, les flows qu'on va toujours mettre en place quand on va travailler avec un client. Le premier flow très important, c'est le flow de bienvenue. Donc, essentiellement, quand quelqu'un arrive sur votre site Internet, il va y avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir où est-ce qu'on va offrir aux clients qui visitent le site peut-être un pourcentage de rabais, peut-être un cadeau ou peut-être littéralement rien du tout et on va l'inviter à s'abonner à notre infolettre. Automatiquement, va s'en suivre une séquence de 2 à 3 emails. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Où est-ce qu'on va présenter l'organisation et très souvent, on va faire une offre à ce même prospect. C'est ce qu'on appelle ici un flow de bienvenue. Le deuxième flow qu'on intègre dans notre structure de football, c'est le flow d'ajout panier. Donc, essentiellement, si quelqu'un met ses informations pour acheter votre produit, son nom, son adresse email, son adresse également de livraison, mais qu'il ne complète pas la transaction, il va y avoir une séquence qui va varier encore une fois de 2 à 3 emails pour s'assurer que le prospect va acheter le produit. Également, j'aimerais mentionner, on a vu des clients dans le passé qui sont venus à nous, qui voulaient mettre et qui voulaient intégrer beaucoup plus que 2 à 3 emails. Je l'ai vu d'ailleurs sur un client récemment qui avait des séquences littéralement de 10 à 15 emails et ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner, tout dépend du contenu qu'on va vouloir intégrer dans ces emails-là. Si c'est uniquement du contenu pour vendre sans donner d'histoire ou de contenu à notre audience, ça risque de ne pas tellement fonctionner. Mais si on est capable de bâtir une histoire et d'offrir du contenu sous une base, on va dire peut-être 2 à 3 fois par semaine, eh bien, un flow de ce type pourrait clairement fonctionner pour ce qui a trait au niveau des ajouts au panier. Le troisième flow qu'on va utiliser ici, c'est le flow qu'on appelle le browse abandonment. Donc, essentiellement, c'est quand quelqu'un fait déjà partie de notre liste de emails, donc on l'a déjà dans notre base de data, et que cette personne-là va magasiner, va se promener un petit peu sur notre site Internet et va arrêter à une section produits. Donc, dans un cas ici, disons, s'il va sur la section produits, où est-ce qu'il veut acheter des lampes pour lui-même. Donc, il va sur notre site Internet, il veut acheter des lampes, et sachant qu'on a déjà son email dans notre base de données, automatiquement, une séquence va s'envoyer à cette même personne-là en lui disant « On a vu que tu es en train de regarder ce produit spécifique-là. Voici un email 1, voici un email 2, voici un email 3. » Et encore une fois, c'est fait pour générer énormément de conversions. Et je vous le dis, c'est un flow souvent qui est oublié, le browse abandonment, mais qui est très, très, très fonctionnel. Le quatrième flow qu'on va mettre en place, c'est ce qu'on appelle le flow win-back. Donc, très souvent, on va avoir devant nous une liste de emails, donc énormément de data avec un nouveau client, avec des gens qui n'ont pas acheté depuis un bon bout de temps maintenant, plusieurs mois. Donc, lancer les flows de win-back, donc ça, c'est essentiellement aller rechercher un consommateur qui n'a pas acheté chez nous depuis un bon bout de temps, qu'on veut ramener et qu'on veut lui faire acheter de nouveau. Ça, c'est ce qu'on va appeler un flow win-back. On va le mettre en place pour les anciens clients et également, on va le mettre en place pour qu'ils soient capables de rouler pour les nouveaux clients qui, pendant un certain temps, n'auront pas acheté nos produits. Le cinquième flow qu'on met très souvent en place, c'est ce qu'on appelle le flow post-purchase, donc le flow qui va se lancer après que quelqu'un ait fait un achat. Ici, on peut avoir des initiatives pour vendre d'autres produits, mais on peut également avoir des initiatives pour aller chercher des avis clients, c'est-à-dire vous avez reçu votre produit, qu'est-ce que vous en avez passé? Est-ce que vous êtes prêt à nous donner un témoignage sur notre site Internet, un témoignage sur notre page Facebook? Donc, ces flows-là sont très utiles pour, un, soit essayer de vendre davantage, deux, récolter des avis clients, ou trois, également pour faire un petit peu plus d'explications sur le produit. Des fois, on a des produits plus compliqués à utiliser. Il peut y avoir un certain travail de mise en place quand on reçoit le produit pour qu'il soit fonctionnel. Si on vend des meubles, par exemple, eh bien, ces différents flows-là de post-achat peuvent permettre de donner un petit peu plus d'explications à nos clients. Donc, simplement pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui se posent des questions sur quel flow à mettre en place, les 5 que je viens de vous mentionner sont habituellement ceux qu'on va attaquer quand on débute un partenariat au niveau emailing avec nos clients chez Pure Commerce. Je continue également au niveau de la fréquence des envois des infolettes. Donc ça, c'est une question qu'on se fait souvent poser. Combien d'infolettes, combien de emails je devrais envoyer dans le mois? La bonne question à répondre à ça ici, c'est, ou plutôt la bonne réponse, c'est de se dire, tant aussi longtemps qu'on a quelque chose à dire à nos clients, on peut envoyer des emails. Donc, il n'y a pas de souci ici, si on a des nouveautés qu'on est capable de partager avec notre audience, on le fait. Ceci étant, je vais les regarder en moyenne pour nos clients et ça va souvent varier, je vous dirais, entre 1 et 3 emails par semaine. Donc, on pourrait dire que la moyenne, ou plutôt la médiane de tout ça, serait 2 emails par semaine. Des emails qui vont soit être promotionnels ou des emails également qui peuvent être orientés sur du contenu. On essaie de trouver, bien entendu, une balance entre les deux, mais force est d'admettre que les boutiques en ligne, ce ne sont pas nécessairement celles qui vont bâtir le plus de contenu comparativement à d'autres types d'organisations qui vont pouvoir faire peut-être des articles de blog, des podcasts, des shows YouTube. Souvent, les boutiques en ligne vont se limiter à un type de contenu qui va être des articles de blog plus souvent qu'autrement. Donc ici, on n'a pas tout le temps beaucoup de matière sous la main pour faire des envois d'infolettes qui sont différents que des envois promotionnels. Donc très souvent, ça va être soit une offre, un nouveau produit, un contenu qui a été mis de l'avant sur le site Internet. C'est ce qu'on va envoyer aux clients de nos clients ici. Une autre question qu'on se fait très souvent poser ici, c'est davantage pour le volet publicitaire. Donc, après avoir parlé de emailing, parlons un petit peu de publicité. La question est, combien je devrais investir en publicité pour aller chercher des nouveaux clients? Bien, nous, on en a déjà parlé, je pense, sur le podcast quand on parlait de notre boutique en ligne qu'on a acquis. Le plus possible, ce serait la bonne réponse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon ou de moins bon budget, mais si on est capable d'investir un très, très bon montant en publicité, moi, je vous conseille d'investir le plus possible avec un mantra en tête, et c'est Dan Kennedy qui a dit ça un jour. The person who's willing to pay the most to acquire customers wins. Donc, je vous traduis le tout en français. La personne qui est prête à payer le plus pour acquérir un client va gagner. Donc, si vous êtes prêt à payer plus cher vos clients, vous allez être capable d'investir davantage et prendre plus de parts de marché. Bien entendu, on veut pas dépenser, on veut investir, c'est-à-dire qu'on va avoir un retour sur investissement. Donc, je vais vous donner un petit peu l'équation qu'on va prendre dans notre organisation quand on veut déterminer le coût d'acquisition qu'on est prêt à payer pour un client. Donc, essentiellement, ce qu'on va regarder sur la première transaction, c'est le prix que le produit va être vendu moins les COGS. Donc, les COGS, qu'est-ce qu'on veut dire? Pardon, on veut dire cost of goods sold. Donc, si, disons, on va prendre un chiffron, le produit est 100 $ et pour bâtir ce produit-là et l'expédier, ça nous coûte 30 $, eh bien, le CAC qu'on va être prêt à payer va être 70 $. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne de la marge de manœuvre. Donc, avec 70 $ comme coût d'acquisition qu'on est prêt à payer, on va davantage peut-être l'appeler comme NCAC ici, donc New Cost Per Acquisition, au lieu de simplement CAC, parce que CAC, ça peut être lié à un client existant que vous avez chez vous. Nous, ici, on veut vraiment aller chercher des nouveaux clients. Donc, prix du produit moins COGS égale NCAC. Donc, dans le cas ici, 100 moins 30 égale 70. Donc, 70 $ va être le prix qu'on va être prêt à payer pour aller chercher un nouveau client. Donc, ce qui nous permet d'être à l'équilibre au niveau de la première transaction et pas simplement à l'équilibre au niveau du revenu, mais au niveau du profit, parce que le prix du produit moins les COGS, habituellement, ça nous donne un profit brut. Eh bien, là, on va être prêt à payer 70 $ pour aller chercher un nouveau client, ou du moins, c'est ce qu'on va conseiller nos clients. Et par la suite, bien entendu, si on a une bonne structure en place, on va être capable d'aller intégrer les flows qu'on vous a dit un petit peu plus tôt ou encore les fréquences d'envoi d'infolettes qui vont faire en sorte qu'on va augmenter la valeur long terme de ces mêmes clients qu'on va avoir été capable d'acquérir sur les différentes plateformes publicitaires. Et ça m'amène à une autre question par la suite qu'on se fait souvent poser. Quelles sont les meilleures plateformes à utiliser pour l'acquisition de nouveaux clients? Bien, bon, en toute honnêteté, chez Pure Commerce, au moment où on se parle, on utilise surtout Facebook et Google. Donc, Facebook, c'est la plateforme par laquelle J7 Media a été bâti depuis 2012 maintenant. Donc, peut-être vous le savez, mais Pure Commerce est l'entreprise sœur de J7 Media. J7 Media qui est une entreprise 100% orientée autour de la publicité Facebook et qui nous a amené ultimement à bâtir Pure Commerce. Donc, on a vraiment tout bâti autour de J7 avec la publicité Facebook. Donc, c'est vraiment l'expertise qu'on a grandement ici. Et à travers les années, on a intégré une nouvelle plateforme qui est la plateforme Google Ads. Et ça, on l'a fait via une acquisition qu'on a conclue environ un an et demi de ça maintenant. Donc, Facebook et Google sont les deux canaux publicitaires qu'on va grandement utiliser pour aller faire de l'acquisition de nouveaux clients. On est également en train de regarder pour intégrer du Amazon Ads à nos approches. Et vous allez avoir sur le podcast bientôt quelqu'un qui va vous parler de Pinterest Ads pour des e-commerçants. Donc, vous allez avoir un petit peu plus de contexte également sur le podcast par rapport à Pinterest Ads bientôt. Également, en toute transparence, pendant l'année 2022, on a mis beaucoup de temps pour essayer de générer des résultats avec TikTok avec des bons et des moins bons coûts. Au final, la conclusion a été la suivante. TikTok Ads, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas nécessairement mieux que ce qu'on va être capable de générer avec Facebook, ou du moins dans tous les clients avec qui on l'a testé, jamais les résultats sur TikTok ont été capables d'être meilleurs que les résultats sur Facebook. Peut-être on s'y est mal pris, peut-être qu'on va reprendre d'autres approches dans les années à venir, mais nous, notre conclusion a été la suivante. TikTok est une plateforme très mature pour les utilisateurs, mais n'a pas le même niveau de maturité pour ce qui concerne le niveau publicitaire. Et ici, on l'a surtout comparé à Facebook parce qu'on est beaucoup dans le contexte des social ads ici que simplement la publicité en général, comme on pourrait avoir sur les moteurs de recherche. Donc, TikTok a été utilisé, mais n'a jamais battu les résultats qu'on était capable d'avoir en publicité Facebook. Je continue un peu avec des questions sur le e-commerce qu'on se fait poser. Quels sont les meilleurs CMS à utiliser. Ben, essentiellement, nous, ce qu'on voit le plus avec nos clients, mais il y en a beaucoup. Mais si on veut prendre un qui est universel, Shopify est clairement lui qui est le plus utilisé avec nos clients. Et on peut l'expliquer grâce au nombre d'applications possibles qui peuvent venir avec Shopify. Donc, ils ont bâti vraiment leur notoriété Shopify autour du nombre d'applications qui peuvent utiliser leur API. Donc, on pense ici à Lifetimely, à Triple Weld, des applications qu'on a parlé très, très souvent sur le podcast, mais il y en a tellement d'autres. Et souvent, leurs compétiteurs qu'on pourrait voir peut-être avec WooCommerce ou BigCommerce ou encore Magento sont des très bons CMS, mais n'ont pas le même bassin d'applications possibles comme Shopify peut l'offrir. Donc, simplement à cause de cette raison-là, Shopify est une solution beaucoup plus intéressante parce qu'on le sait, on n'a pas simplement besoin d'un CMS quand on est en commerce électronique, on a besoin de plusieurs applications connexes. Et si ces applications connexes-là peuvent avoir une intégration native avec notre plateforme de développement web, ben c'est habituellement à ce moment-là qu'on va être en meilleure position. Et c'est ce que Shopify a été capable de faire à travers le temps. Donc, clairement, quand nos clients nous parlent de transition vers une nouvelle plateforme, Shopify est souvent le joueur qu'on va privilégier et c'est également le joueur qu'on va privilégier si les gens se lancent pour la première fois en commerce électronique. Donc, une autre question qu'on se fait souvent poser, qu'est-ce qui différencie vos clients qui ont beaucoup de succès des clients qui en ont moins? Ben, habituellement, ça vient de deux choses. Donc, un NCAC, le coût pour aller chercher un nouveau client qui est plus bas que la moyenne, et un LTV, donc la valeur long terme, lifetime value, qui est beaucoup plus élevé également. Bon, ça, ça peut paraître de base et très simpliste, j'en conviens. Mais habituellement, ces deux chiffres sont reliés plus souvent qu'autrement à la force du brand en organique. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Si vous avez été capable à travers le temps de bâtir une présence organique qui est forte, que ce soit à travers les moteurs de recherche, que ce soit à travers les médias sociaux, que ce soit à travers peut-être des relations publiques. Bref, il y a plusieurs manières de bâtir un brand fort, une présence organique très dense, on pourrait dire. Eh bien, quand on est capable de faire ça, automatiquement, ça réduit notre coût par acquisition parce que maintenant, vous êtes capable d'aller chercher des clients sans nécessairement investir en publicité. Et c'est ce qui différencie habituellement les brand e-commerce qui vont passer la barre des 10 millions de chiffre d'affaires avec nous. C'est des gens qui investissent beaucoup en publicité, mais d'un autre côté, ont d'autres canaux qui sont pas nécessairement des canaux payants avec lesquels ils vont faire de l'acquisition. Donc ça, c'est un des gros dénominateurs communs qu'on va voir parmi ceux qui ont du succès de ceux qui en ont moins. Et par la suite, c'est des gens qui vont avoir été capables à travers le temps d'intégrer plusieurs gammes de produits à ce qu'ils font. Et par extension, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une valeur long terme de client qui est plus élevée parce qu'on est capable de vendre d'autres types de produits à travers le temps. Donc, je pense que si on résume ça très simplement, c'est ce qui pourrait différencier les e-commerce qui ont beaucoup de succès des e-commerce qui en ont peut-être un peu moins avec nous. Une autre question qu'on se fait également poser, ça c'est surtout notre équipe de création qui va se la faire poser, quels sont les créatifs qui fonctionnent le plus en général avec vos clients e-commerce? Bon, je vous apprendrai rien, mais en 2023, les contenus vidéo, surtout quand on vend des produits, sont excessivement fonctionnels, simplement parce qu'ils sont capables de faire de la démonstration. Une image fixe, un contenu fixe n'a pas la possibilité de faire de la démonstration, donc des contenus vidéo qu'on pourrait considérer comme des unboxing, donc des contenus vidéo qui font en sorte que le produit sorte de la boîte quand on le reçoit à la maison. Des contenus également où est-ce qu'on va être capable de utiliser le produit en action, des contenus vidéo très, très fonctionnels. Si on regarde en termes de format maintenant, les contenus natifs très orientés UGC, donc User Generated Content, sont une approche excessivement fonctionnelle encore en 2023. Mais bien entendu, ce sont uniquement des formats. Donc, format vidéo, format natif, UGC, c'est l'approche qu'on prend. Mais rien de tout ça va fonctionner si vous n'avez pas un bon hook, si vous n'avez pas un bon message publicitaire ou encore une fois, si vous n'avez pas une bonne offre. Mais clairement, le volet vidéo est un des endroits avec notre organisation qu'on met de plus en plus d'efforts parce que c'est clairement ce qui différencie habituellement les publicités qui fonctionnent des publicités qui fonctionnent un petit peu moins bien. Une autre question qu'on se fait poser, je vais terminer là-dessus. Quand allez-vous stopper une publicité dans un compte, que ce soit une publicité Facebook ou un compte Google? Bien, nous, on a un processus en quatre phases dans notre groupe pour bâtir des bons messages publicitaires, mais essentiellement, si on peut retenir une chose ici aujourd'hui, si, disons, on a un NCAC, donc un coût d'acquisition cible pour aller chercher un nouveau client qui va être de 50$, bon, on va investir maximum, on va dire, entre 150 et 200$ sur cette publicité-là. Donc, on pourrait dire de 2 à 4 fois le NCAC cible. Si à partir de là, on n'a eu aucune conversion et habituellement, et même 2 à 4 fois, c'est très généreux. Peut-être même des fois à 2 fois, on va arrêter. Mais là, c'est là qu'on va stopper la publicité. Donc, on donne la possibilité à la publicité de générer au moins son NCAC 1 fois, voire 2. Et par la suite, on peut attendre un petit peu, voir si on le garde de 3 à 4 fois selon d'autres types d'indicateurs. Donc, si le coût par clic est bon, si le CTR est au-dessus d'un pourcent, on va garder la publicité. Mais habituellement, si on n'a pas de transaction qui est faite après 2 à 4 fois d'investissement du NCAC cible, on va stopper la publicité. Donc ça, c'est 7 questions qu'on se fait très souvent poser dans notre groupe, autant chez Pure Commerce que chez G7 Media. J'espère que ça vous aide. J'espère que les directeurs marketing, les propriétaires de e-commerce qui écoutent ça aujourd'hui, ça peut vous donner un petit peu plus de contexte. Et sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commerce Elite.